Bien, chers amis, c'est ma joie d'être parmi vous ici pour ce court temps de visite et de pouvoir ouvrir avec vous ce livre extraordinaire qu'est la Bible. Nous allons lire, pour introduire notre réflexion, un premier court extrait de l'Ancien Testament dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, premier livre des Chroniques, chapitre 29, l'introduction à ce qui est un peu le testament spirituel du roi David, peu avant son départ vers le Seigneur dans sa 71e année d'existence, et il s'adresse à toute l'assemblée, chapitre 29, et lui dit: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais, donc le temple qui devra être construit par Salomon, ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette deuxième partie du verset premier. Ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Gardons cette pensée dans notre esprit et venons au Nouveau Testament dans la lettre de Paul aux Romains. Lettre de Paul aux Romains, nous lirons successivement et sans nous arrêter au chapitre 8, tout d'abord à partir du verset 28 jusqu'au verset 39, et dans le même souffle, sans nous arrêter, le début du chapitre 12, les deux premiers versets. Donc, je commence au chapitre 8, verset 28, par cette affirmation de certitude. Il était dit un peu plus haut: nous ne savons pas, et c'est vrai. Il y a tant de choses que nous ne savons pas, et que nous ne savons pas comment faire, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais verset 8, 28, mais nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après avoir considéré dans les 8 premiers chapitres de sa lettre aux Romains ce que nous pourrions appeler la philosophie du salut, dans ces 4 dimensions, condamnation totale de l'humanité tout entière, passé, présent et futur. Tous ont péché, ils sont privés de la beauté de Dieu, de ses perfections, de sa pesanteur, de sa gloire. Puis justification, ce coup de trompette extraordinaire qui sonne notre salut, notre acquittement, la déclaration d'une justice qui nous est accordée gratuitement parce que le Fils de Dieu a payé le prix fort pour que nous soyons innocentés, acquittés, déclarés justes, considérés comme si nous n'avions jamais fauté. Acquittés dans la mesure où, bien entendu, de manière tout à fait personnelle et concrète, nous venons au lieu du grand rendez-vous de l'histoire, la croix de Golgotha. Troisième dimension de cette philosophie du salut, la sanctification, œuvre de Christ en nous, par le Saint-Esprit. Un Dieu qui nous donne la capacité de vivre une vie nouvelle en son Fils Jésus-Christ. Et enfin, cette quatrième dimension qui est le couronnement de la vie chrétienne, cette perspective qui remplit nos cœurs d'allégresse, qui nous aide à tenir bon dans les temps difficiles, la glorification de la vie chrétienne dans son épanouissement éternel. Cette glorieuse perspective, cette espérance qui nous soutient jour après jour. Après avoir évoqué la philosophie du salut, puis la philosophie de l'histoire, histoire vue sous un angle particulier, à partir de ce peuple mis à part, Israël, dans son élection, au chapitre 9, dans sa mise à l'écart, au chapitre 10, dans sa réintégration, dans sa conversion nationale, encore à venir, au chapitre 11. L'apôtre Paul aborde ce qui nous intéresse maintenant, la philosophie de la conduite, qui va occuper les chapitres 12 à 15 de cette lettre, et qui, vous le remarquez, commence par une petite conjonction. Je vous exhorte donc. Et c'est pourquoi nous avons dû lire tout à l'heure, au préalable, ce qui précédait, ce qui était le tremplin de la philosophie de la conduite, à savoir précisément la conclusion de ce chapitre 8 sur la philosophie du salut. En attendant la rédemption finale et totale, en attendant la transformation de nos corps par cette puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ, en attendant, eh bien, offrez vos corps en sacrifice vivant. Exhortation qui s'inscrit donc dans la suite logique de l'enseignement de l'apôtre Paul sur l'utilisation, sur l'usage de notre corps, puisque nous avons, dans les 8 premiers chapitres de cet épître aux Romains, une douzaine de passages qui traitent de l'usage du corps, tout d'abord en dehors de Jésus-Christ, au chapitre 3 par exemple, et qui nous montre la gangrène dont est atteint tout le corps. Douzaine de textes et qui aboutissent à cette exhortation puissante qui ouvre le volet pratique de l'épître après l'enseignement doctrinal, un enseignement d'ordre moral. Après avoir évoqué l'importance d'être justifié, après avoir évoqué l'importance de la foi, de la confiance personnelle dans le Fils de Dieu, l'apôtre Paul aborde le dernier mot clé de ce verset clé de Romains 1, 17, « Le juste vivra par la foi ». Maintenant, il est question de vie. Il est question de vivre. Il ne suffit pas de croire à l'Évangile. Il faut le vivre, il faut le vivre dans son corps. L'apôtre Paul nous dit en quelque sorte de la part de Dieu, attention non à l'orthodoxie morte, non au cimetière, dans l'Église de Jésus-Christ. Offrez vos corps. Luther dira, l'apôtre Paul appelle corps non seulement les os et la peau, mais toute la masse de nos personnes. Et c'est vrai que dans un grand nombre de textes des Écritures, le corps signifie la totalité de la personne. C'est d'une offrande totale qu'il s'agit. Le langage de l'ancien rabbin Saul s'appuie sur des textes de l'Ancien Testament. Il construit d'ailleurs toute cette lettre aux Romains en utilisant le livre du Lévitique. Il en emploie les mots-clés. Il en adopte la structure, mais en la renversant. Et il évoque ici, dans Romains au chapitre 12, le premier chapitre du livre du Lévitique, dans lequel il est question de l'Holocauste. Ce sacrifice totalitaire, où la victime était tout entière, découpée en morceaux, posée sur l'autel, la tête y compris, et ceci est dit à plusieurs reprises, et cela rejoint le verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. » C'est par la tête que les choses doivent commencer. Offrande qui va être agréée par Dieu, brûlée tout entière, qui va monter vers Dieu et qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel, tout simplement d'ailleurs parce qu'elle aura été précédée d'autres sacrifices, sacrifices de culpabilité, sacrifices d'expiation, offrandes de reconnaissance, sacrifices d'action de grâce, avec cet aboutissement suprême qui est l'Holocauste. Nous sommes donc exhortés, invités à offrir notre tout, sans rien garder pour nous. Et je suis frappé là aussi par le caractère totalitaire de l'enseignement néo-testamentaire sur la question. Preuve en est le fait que ces petits mots toutes et toujours figurent quelque 1400 fois dans le Nouveau Testament, pour nous montrer qu'il est bien des domaines où nous n'avons pas droit à la demi-mesure. Dans notre étude hier sur la personnalité de cet homme de Dieu remarquable qui était Barnabas, nous avons dû nous pencher sur la nécessité des nuances, du tact pour le bon contact, de la courtoisie. Ce matin, nous devons dire qu'il est des domaines où nous devons absolument être totalitaires dans notre relation avec Dieu. Tout offrir, sans rien garder pour nous-mêmes. Ah, il est arrivé que, à la suite d'un tel enseignement, des amis viennent me voir pour contester cet aspect, me disant, mais vous ne pensez pas, cher frère, que vous allez trop loin? Ne pensez-vous pas que tout de même, si nous mettons sur l'autel le 70 ou le 80% de notre existence, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire? La vie est si difficile aujourd'hui. Et j'ai dû simplement, dans ma réponse, continuer à me tenir sur le terrain de l'Évangile. Tout simplement parce que le Seigneur Jésus l'a dit, nul ne peut servir de maître. Et vous le savez, vous que je ne connais pas, qui êtes ici ce matin et dans le cœur duquel cette parole retentit en ce moment, vous le savez. Si vous êtes écartelé à cause de cette tentation de vouloir vivre dans deux directions à la fois, vous savez que c'est impossible. Vous savez dans quelle misère vous êtes en ce moment. Combien cet écartèlement est douloureux. Je crois personnellement, la Bible le dit, la Bible est claire, que nous ne vivrons jamais l'enfer si nous connaissons Jésus-Christ. Mais ce que je crois, c'est que le disciple de Christ au cœur partagé connaît l'enfer sur la terre. Parce que rien n'est plus terrible que de devoir vivre dans la nostalgie d'une époque où toute notre vie était sur l'autel. Réaliser les délices que nous avons connus dans la présence de Dieu dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et voir combien toute notre vie est mise en l'air, perturbé par cette tentation de vouloir profiter à la fois des avantages du royaume de Dieu et des avantages du prince de ce monde. Dans mon enfance, j'ai été impressionné par un aviateur célèbre qui a donné son nom à bon nombre de rues en France. C'était un as de l'aviation durant la Première Guerre mondiale, dont j'ai lu la biographie je ne sais combien de fois. Il s'appelait Georges Guynemer et il avait entre autres une devise impressionnante. Il disait ceci, on n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. Et non seulement c'était sa devise, mais il incarnait sa devise à un tel point que finalement, en 1917, il fut abattu par l'aviation allemande. Il donna sa vie au sens le plus fort et le plus littéral de cette expression. Et en fait, il rejoint, lui, sans connaître Jésus-Christ, les déclarations de tant et tant d'hommes et de femmes de Dieu qui se sont succédés dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Je pense à Hudson Taylor qui disait combien peu de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Alors vous me dites, mais nous ne sommes plus autant des seigneurs. Nous avons tant de peine à comprendre la portée de ce terme Seigneur aujourd'hui. alors que c'était un terme tout à fait usité, fort courant dans l'Empire romain, et qui posait, disons-le, de très sérieux problèmes à tous ceux qui se tournaient vers Jésus-Christ. Quand des soldats ou des fonctionnaires se croisaient dans les rues de Rome, comment se saluaient-ils ? Sinon, par la célèbre formule « César et Seigneur ». C'est-à-dire « César est mon autorité suprême ». Et lorsque César, progressivement, était divinisé, cela voulait donc dire beaucoup de choses. César est mon Dieu. Il a tous les droits sur moi. Et l'autre, de reprendre en disant « Oui, le Seigneur, c'est César ». Alors vous imaginez, le prisonnier, Paul, qui était encadré de soldats auxquels il annonçait cet évangile de Jésus-Christ tellement lumineux, et qui renvoyait ses soldats vers la caserne après avoir effectué leur garde, bien souvent changés en profondeur dans leur cœur, ayant rencontré Jésus-Christ aux côtés de Saul de Tarse. Et ces hommes qui repartaient là en patrouille vers la caserne, le cœur battant d'une nouvelle espérance, subitement étaient confrontés très rapidement avec la seigneurie de César, parce que très rapidement ils entendaient dans la rue quelqu'un leur dire « César est le Seigneur ». Et au moment même où, par habitude, par tradition, il s'apprêtait à dire « Oui, le Seigneur est César », il mettait la main sur la bouche et disait « Mais je ne peux plus dire cela. » Et bien entendu, vous imaginez les réactions que cela engendrait. Et c'est ainsi qu'au fil de la dégénérescence de l'Empire romain, des milliers et des milliers de croix se sont dressées au bord des routes, dans les jardins impériaux, dans les cirques, sur lesquels mouraient des hommes et des femmes qui avaient confessé la seigneurie de Jésus-Christ et refusé celle de César. Alors là, le terme Seigneur prend une dimension, un relief saisissant. Vous savez que dans les Écritures, Jésus-Christ porte le titre de sauveur. Jésus veut dire il sauve. Mais Jésus-Christ porte aussi le titre de sauveur, prince et sauveur, etc. Alors savez-vous combien de fois Jésus-Christ porte ce titre de sauveur dans le Nouveau Testament? C'est intéressant. Jésus est mentionné 16 fois comme sauveur dans le Nouveau Testament. Mais si maintenant, je vous demande combien de fois Jésus-Christ porte le titre de Seigneur dans le Nouveau Testament? Plus de 470 fois. Et là, je ne mets pas toutes les dizaines de mentions de la Seigneurie de Dieu le Père ou de Dieu le Fils, parce qu'on ne peut pas toujours discerner de qui il s'agit, parce qu'il faudrait encore en ajouter un certain nombre pour monter pratiquement à 660 fois. Alors, Jésus-Christ est-il Seigneur? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrez la totalité de vos personnes. Parce que nous l'avons dit, nul ne peut servir de maître. Et là, je vais utiliser une illustration que je vais personnaliser, mais que j'ai découvert il y a quelques années déjà dans la brochure Notre Pain Quotidien, issue du quartier d'ici. Imaginons un seul instant que mon épouse, nos quatre enfants et moi-même nous habituons depuis toujours dans votre belle province et ici dans cette région du Cap de la Madeleine. Et que un jour, vous découvriez avec un certain étonnement une annonce de la mise en vente d'un terrain m'appartenant. Nous serions en tant que famille membres de cette église. Et voilà, vous découvrez que nous avons un terrain de 1000 acres qui nous appartient et que nous sommes en train de mettre en vente. Et donc, vous vous précipitez sur votre téléphone, ça sonne chez moi, je décroche, et je m'entends dire « Maurice, combien tu es cachotier, tu nous avais caché ça. Tu vends un terrain ? Alors, tu es mon frère, Maurice, moi je cherche un terrain. Et je suppose que parce que tu es mon frère, tu vas me proposer un prix évangélique. » Alors, j'articule une somme et mon frère fait un bond au téléphone. Il est bouleversé, mais il est retourné sans dessus dessous et il dit « Écoute, je viens te voir, nous allons tout de suite régler les papiers ensemble. » Et alors que je m'apprête à préciser certaines choses, il a déjà raccroché dans son enthousiasme. Et quelques moments plus tard, je le vois réapparaître chez moi. Et il me dit, écoute, il faut que nous allions maintenant régler tout cela devant un homme de loi, vraiment. C'est formidable. Je n'ai jamais vu un prix aussi évangélique. Tu sais, tu as un frère, comme il n'y en a pas deux. Et je suis obligé de tempérer quelque peu son enthousiasme. J'ai dit, écoute, tu aurais pu me laisser quand même continuer à dire quelque chose au téléphone, parce que il y a ce qu'on appelle des clauses restrictives. Je veux bien te le vendre à ce prix-là. Mais simplement, j'ai quand même quelque chose à te demander en échange. Alors, vous commencez déjà à vous sentir un petit peu mal à l'aise à quelque part. Suis-je aussi évangélique qu'il y paraît ? Et je vous dis simplement, la bouche en cœur, tu sais, mon frère, ce terrain a appartenu à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, et puis on peut remonter très loin comme cela. C'est donc un terrain qui a une portée affective très forte, c'est une mémoire pour nous. C'est un livre de souvenirs. Alors, s'il te plaît, je veux bien te le vendre à ce prix-là, dans la mesure où tu me laisses un tout petit morceau. Un acre, tout petit morceau. Alors, vous êtes déjà en train de travailler dans votre système informatique personnel, là, hein ? Vous vous dites, bah oui, on va lui donner ça. Et comme vous êtes allé voir le terrain, vous avez déjà choisi l'endroit qui vous fait le moins de problèmes possible pour me l'offrir, hein ? Le problème, c'est que je dois ajouter ceci, écoute mon frère, je suis un peu gêné de te le demander, mais nous ne voudrions pas que ce petit morceau que tu acceptes de nous laisser soit situé comme un timbre-poste sur une enveloppe. Parce que tu comprends, nous allons venir pique-niquer, prendre nos repas ensemble, et je ne suis pas assez riche pour me payer un hélicoptère qui descendrait là, à tel ou tel endroit, et de toute manière, s'il est dans un coin, je vais me tourner tout autour, et sur toute une partie, qu'est-ce que je verrai ? Des terrains qui ne m'appartiennent pas, qui n'ont aucun sens pour moi. Donc, s'il te plaît, j'aimerais que cet acre soit situé juste au milieu du terrain. Comme ça, quand nous viendrons pique-niquer, nous serons environnés de notre passé. Dites-moi, est-ce que vous êtes encore enthousiaste pour m'acheter ce champ ? Alors que je sais très bien qu'au Québec, tout comme en France, il existe des lois qui d'ailleurs font que des milliers de personnes, en tout cas en France, se bousculent devant les juges pour régler des conflits qui sont liés précisément à l'usage pratique de ces lois, notamment ce qu'on appelle le droit de passage, le droit d'accès. Si j'ai mon petit territoire là au cœur du champ, j'ai besoin de pouvoir y accéder. Et vous savez combien on abuse facilement du droit de passage, hein ? Il fait d'abord 2 mètres, et puis il en fait 2 mètres 50, et puis il en fait 3 mètres, et puis il en fait 4 mètres. Hein ? Vous savez comment c'est ? Et un jour, on se retrouve devant un tribunal. Ceci est une parabole. Si nous gardons pour nous une petite parcelle, nous avons beau dire, Seigneur, je t'ai donné tout le reste, tout est à toi. Cette parcelle que nous gardons pour nous-mêmes dans nos propres vies, c'est une sorte de pied-à-terre de la puissance des ténèbres. À partir de là, ou pour atteindre cette parcelle, la puissance des ténèbres va piétiner la totalité de votre terrain. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être heureux si nous gardons une quelconque parcelle de territoire pour nous-mêmes dans notre vie. Et mes amis, combien le cœur de l'homme est tortueux pour garder un emplacement réservé pour lui. Ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut absolument tout. Il veut une relation d'intimité entre lui et moi. Quand le Saint-Esprit entre dans ma vie, il ne se tient pas sur le paillasson à l'entrée de la maison, comme le facteur qui viendrait vous tendre une lettre. Il ne veut pas non plus se tenir simplement dans l'entrée, voire dans la cuisine. Il ne veut pas même s'installer à notre table pour un bon repas. Il veut avoir accès à tous les domaines de la maison, y compris la chambre à coucher. C'est-à-dire tous ces domaines, parfois très secrets, dans lesquels nous fantasmons, dans lesquels nous laissons aller notre imagination, dans des domaines qui ferait rougir de honte le monde entier s'il savait ce que nous sommes capables de faire dans ce domaine réservé. Imaginez donc que lorsque je rentrerai à la maison le 15 de ce mois, je sonne à la porte, mon épouse vient de m'ouvrir et je m'apprête, après lui avoir donné des gros bisous, aller vers la chambre, et qu'elle me dit « Ah non, 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 pas question, tu n'as plus le droit d'aller dans la chambre. Ça, c'est mon domaine réservé. » Vous imaginez ? Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons facilement ? Est-ce que ce n'est pas peut-être notre problème aujourd'hui ? Alors, vous savez, nous sommes prompts à dire au Seigneur nos reproches, à lui dire qu'il n'est pas forcément fidèle. Oh, nous ne lui disons pas dans ces termes. Mais nous avons des griefs contre Dieu. Nous pensons qu'il n'est pas toujours très fidèle à ses promesses. Et pourtant, Dieu nous dit, donne-toi tout entier. Et alors, je te donnerai tout. Donne-toi tout entier. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et j'aimerais ici terminer notre réflexion par cette petite histoire de deux enfants. Elle s'appelle Anne. Il s'appelle Jacques. Peut-être y a-t-il des Anne et des Jacques ici. Et Anne et Jacques sont en train de jouer ensemble. Jacques a ceci de particulier, c'est qu'il aime bien les billes. Vous connaissez les jeux de billes ici aussi ? Alors il aime beaucoup les billes. Et ce jour-là, Jacques a 5 billes dans sa poche. Et parmi ces 5 billes, il en a une vue. C'est la bille qu'il prend le soir quand il rentre à la maison pour se coucher et qu'il sort de sa poche et qu'il met sous son oreiller. Il la caresse. Il la dorlote. Il l'aime, sa bille. Elle est tellement belle. Jacques est très gentil puisqu'il a bien voulu me prêter sa bille. Je dois l'avoir là dans ma poche. Ah oui, elle est là. La bille de Jacques. Et ce jour-là, il est dans sa poche, au milieu de 4 autres billes. Et Jacques, en train de jouer avec Anne, voit Anne qui a un petit sachet de chocolat à la main. Et Jacques a une envie folle de chocolat, parce qu'après les billes, ce sont les chocolats qu'il aime tout spécialement. Et les chocolats ont l'art de pouvoir faire ce que les billes ne réussissent pas à faire. Ça lui fait monter la salive. Et Anne, en petite demoiselle, intuitive, observatrice, a remarqué ses pupilles se dilater. Ce qui fait que elle lui propose un marché. Elle lui dit, Jacques, si tu me donnes toutes tes billes, moi je veux bien, je te donne tous mes chocolats. Jacques, dans un moment d'enthousiasme, immédiatement, sans bien réfléchir, répond, oui, d'accord. Et il met déjà sa main à la poche lorsque, subitement, il se souvient de sa bille bleue, la belle bille. Alors il entreprend avec une rapidité peu commune, mais puisqu'il la connaît si bien, sa Bible, il entreprend une de ces manœuvres militaires un peu spéciales, n'est-ce pas? Il tâtonne, il trouve la bille, il la connaît sur le bout des doigts, hein. Il l'isole délicatement, et il sort ses 4 autres billes, il regarde Anne droit dans les yeux, il dit, Anne, voilà toutes mes billes, donne-moi tous tes chocolats. Et on assiste à un échange avec cérémonial, hein? Tu donnes, je donne. Et puis nos deux enfants qui partent chacun dans leur direction. D'un côté, Anne est en train de regarder ses billes, elle les caresse, elle est heureuse. De l'autre côté, Jacques qui a déjà une moustache dégoulinante de chocolat, quand subitement, Jacques se retourne sur le chemin et crie, Anne, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux? Anne, m'as-tu bien donné tous tes chocolats? Vous avez compris le sens de cette parabole? Ça, c'est notre problème. Nous accusons Dieu d'un doigt. Il y en a 4 qui se retournent contre nous. Combien de griefs avons-nous vis-à-vis de Dieu? Alors qu'en réalité, nous ne lui avons pas tout donné. Alors je vous laisse simplement cette question. Mon frère, ma sœur, lui avez-vous tout, je dis bien tout donné, tout donné? Et je précise une chose, c'est que offrir vos corps, le verbe offrir, l'infinitif offrir, est dans le texte original, dans le texte grec, à un temps particulier qui n'existe pas en français, mais qui indique que c'est une offrande que l'on fait une fois pour ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas à nous reconsacrer au Seigneur. Mais ce que le texte sous-entend, dans cette une fois pour toutes, c'est qu'il ne doit pas y avoir de calcul. À savoir que nous pouvons très bien ce matin dire au Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as touché. Et je te donne aussi ma Bible. Mais Seigneur, tu comprends, l'été prochain, j'ai l'intention de faire un voyage en Israël. J'aime tellement Israël. Et là, Seigneur, c'est que tu le veuilles ou non. Je veux bien me donner entièrement à toi jusqu'au mois de juillet. Et après, je reprends mes billes, comme on dit. Une fois pour tout. Les 36 verbes qui suivent ce premier verbe sont tous au présent et indiquent la continuité, la permanence des choses et le progrès dans les choses, mais pas ce premier verbe. Le Seigneur Jésus veut la totalité de notre personne, alors peut-être y a-t-il des rétrogrades, des amis qui ont reculé, qui ont laissé la petite bille bleue devenir une deuxième bille, une troisième bille, qui se sont éloignés. Le diable a piétiné. Et le Seigneur leur parle pendant cette réunion. Alors si Dieu a touché une petite bille bleue dans votre poche, je vous en supplie, de la part de Dieu, venez la déposer à la croix. Dites-le lui simplement, Seigneur. Tu m'invites avec force à offrir mon corps tout entier, sans arrière-pensée, seul clic conforme à ce que la raison demande, parce que toi, tu t'es donné en Jésus-Christ entièrement, tu n'as pas calculé le prix. Seigneur, je viens vraiment comme je suis. Je te donne telle clé secrète, telle armoire secrète, telle pièce secrète, telle petite Bible. Je la dépose à la croix. Seigneur, prends toute, je dis bien toute ma vie. J'en ai assez d'être un homme écartelé. Je veux être un homme intègre, entier, totalement sur l'autel pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Nous allons prier. Ô Père, combien de fois ne m'as-tu pas reproché mes petites billes bleues quand j'étais amer, quand j'étais insatisfait, quand j'avais le sentiment que tu n'étais pas fidèle à tes promesses de plénitude. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous que tu connais personnellement. Seigneur, merci de savoir que tu pointes toi-même de manière très claire, sans énigme, les billes bleues que tel ou tel parmi nous peut caché dans le secret de son cœur. Seigneur, merci de ce que par ton esprit, maintenant, ces billes bleues peuvent être déposées à la croix. Je te prie pour telle clé, petite clé secrète, tel petit territoire conservé soigneusement pour nous. Seigneur, tu connais tout cela. Oh, que cette fin de matinée soit un moment de réjouissance dans le ciel pour un renouvellement de consécration, pour une offrande totale, pour l'humiliation où nous appelons les billes bleues par leur nom et où nous te confessons simplement notre écartèlement, notre souffrance, notre misère, la réduction de notre vie. Seigneur, parle en cet instant, pendant que nous sommes sous ton regard. Et je voudrais que nous restions dans la prière sans nous préoccuper de nos voisins, vraiment dans la prière. Et de la part de Dieu, j'aimerais vous offrir la possibilité qu'il m'a offerte tant et tant de fois de venir en quelque sorte déposer 1, 2, 3, 10 Bibles au pied de la croix. Si Dieu vous a parlé d'une zone réservée sur laquelle sa seigneurie ne s'exerce pas encore, ou que vous avez reprise pour